Bonjour, bonsoir les petits curieux et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Si vous êtes nouveau aussi, bien sachez qu'à Petites Obsessions, on mange du fun fact, mais jamais sans avoir pris un peu d'histoire en entrée et un peu d'humour en dessert. Et puis sachez aussi que je me prénomme William et que j'ai une merveilleuse animatrice, co-animatrice en fait, oui. Prénommée Hélène. Comment vas-tu?
Salut, ça va bien toi?
Ça va, merci. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui?
On mange des frontières, on mange de la géographie surtout, je te dirais.
C'est ça, c'est pas un épisode alimentaire, on vient d'en faire un, là,
non,
déjà.
Non, c'est ça. On va se calmer, là, les envies alimentaires. On va plutôt focuser, moi, sur les frontières un petit peu insolites, là, comment ça a été divisé, tout ça. Puis toi, je pense que tu vas parler de lieux mystérieux qu'on est pas trop sûr si ça a existé.
Est-ce que les frontières ont existé, oui ou non? Un épisode sur l'Atlantide de mon côté, donc un endroit mystère qui a plein de secrets à révéler ou pas, avoir
sorte d'avoir ça
aujourd'hui, mais avant tout, passons à l'apéro avec
le générique.
Yes.
Will, j'ai eu la chance de visiter pas mal de places dans ma vie, des pays, des villes, des hôpitaux. C'est vrai, là, j'ai presque autant de cartes d'hôpital que de temples sur mon passeport.
Non, non, ton passeport, il y a genre comme 75 étampes dedans, là.
Non, mais c'est ça, c'est parce que j'ai habité à quelques places dans ma vie, puis on dirait qu'à chaque fois que je change de lieu de résidence, il faut que je passe par l'hôpital.
C'est pas nécessaire, hein?
Non.
C'est juste compliqué, ça, là.
Je le sais, c'est pas normal. Mais bon, trêve de fanfaronnerie, je sais pas toi, mais à chaque fois ou presque que je passe une frontière, je me demande c'est qui a décidé que la limite du territoire était à cet endroit précis et pas quelques centimètres, mètres, kilomètres, peu importe, pour éviter de passer à travers la cour arrière de quelqu'un, par exemple.
Ouais, mais c'est clair qu'il y a des côtés politiques de dire bon, ben, on détermine cet endroit-là, mais c'est vrai que des fois, ça a l'air un peu boboche, arbitraire. Tu sais, des fois, c'est clair, il y a une montagne qui traverse, quoi que ce soit, mais d'autres fois, pas très clair. Là.
Effectivement, des fois, t'as des frontières dites naturelles, comme des chaînes de montagnes, mais parfois, ben, ça passe par des endroits assez saugrenus, et c'est de ça qu'on va se jaser dans le blanc des yeux aujourd'hui. Ou plutôt dans le fin fond des oreilles, là, étant donné que vous nous écoutez puis qu'on est un podcast seulement audio.
Avec des petits extraits.
Avec des petits extraits visuels.
Ouais, c'est ça.
D'abord, testons tes skills en géographie.
Tu le sais que j'en ai aucun. Pourquoi tu me fais ça, Hélène?
Je veux t'exposer. Savais-tu que la France partage une frontière avec les Pays-Bas?
C'est-tu sur un île? Parce que c'est clairement pas sur le territoire. Là. Ben, non, c'est pas sur l'Europe.
Mais tu vois, t'es pas mal meilleur en géographie que ce que tu le prétends, parce qu'effectivement, je ne parle pas de l'Europe continentale, mais des Antilles, qui est presque une deuxième Europe, là, vu que la plupart des pays du vieux continent y ont conquis un petit lopin de terre, hein, on s'entend?
Tous les continents ont déjà un peu appartenu à l'Europe. Là.
C'est ça. Bref, la France et les Pays-Bas se partagent l'île de Saint-Martin, à l'est de Porto Rico.
Oui, je savais.
C'est sûr. La France possède la partie nord, tandis que le sud appartient aux Pays-Bas. Jusque-là, ça va.
Mais oui, parce que le sud, c'est en bas. Oui,
mais les Pays-Bas sont au nord de la France.
Non, mais je sais mes Pays-Bas.
J'aime bien. J'aime bien. Je retiens. La légende veut que la frontière ait été tracée à la course à pied. Aucune idée si c'est vrai, là. On s'entend, j'ai bien dit légende.
Avec
mais...
un tape, une peinture à terre, qu'est-ce qui se passait?
Je sais pas. Mais ça me fait bien rire d'imaginer des magistrats débattre autour d'une map faite sur Strava pour dire « ça, c'est à moi! Ça, c'est à moi! »
C'est ça, c'est... on t'a vu assez courir longtemps dans cette ligne-là, ça t'appartient, genre... c'est peut-être ça, c'était pas, ils ont fait la ligne, ils ont peut-être fait genre, chacun courait à des places, parce que comme ça, c'est ton spot de course, je te le laisse, ça c'est mon spot de course,
ouais,
je le garde.
C'est ça. Mais tu sais, tu prends l'île, puis ça fait, mettons, l'île est ovale, là, ça traverse vraiment au milieu, mais c'est juste... en tout cas, si c'est vraiment que ça a été délimité à la course à pied...
C'est très drôle.
C'est quand même très drôle. Maintenant, saurais-tu me dire où est la plus petite frontière du monde?
C'est sûr que là, c'est un piège pour me dire, genre que je dise le Vatican, puis tu fasses non!
Effectivement, ce n'est pas celle entre le Vatican et l'Italie qui fait 3,2 km, pour ton information. C'est pas gros. Ce serait celle entre l'Espagne et Gibraltar qui s'étale sur 1,2 km. Genre, même notre épicerie la plus proche est plus loin que ça, Will, pour te donner une idée.
Tu veux encore juste plugger le fait qu'on n'a pas d'épicerie proche puis qu'on est dans un désert alimentaire.
Mais regarde, si, je sais pas, la mairie ou l'investiture de Hansik nous écoute,
pas sûr,
mettez-nous une épicerie Saint-Cyboire. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que mes recherches préliminaires m'indiquaient que c'était la frontière entre l'Espagne et Gibraltar. Mais j'ai creusé un petit peu plus loin, et oui, l'Espagne a la plus petite frontière du monde, mais ce n'est pas avec Gibraltar. Tu sais peut-être que l'Espagne a un long historique avec le Maroc?
Absolument pas.
OK, bon. Là, il y a eu des histoires de conquête. Même si tu vas dans le sud de l'Espagne, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'influences arabes dans l'architecture, okay. Par exemple, des choses comme ça.
Je n'ai pas visité l'Espagne.
Puis, tu sais, le détroit de Gibraltar, donc...
Oui, c'est proche,
où effectivement. C'est ça, l'Espagne et le Maroc, c'est quand même très proche. Là. Je pense que c'est une quarantaine de kilomètres, quelque chose
ouais,
comme ça.
J'en parle tantôt d'ailleurs.
Bon, parfait.
Finalement, je savais.
Tu savais. Ouais. Bref, au nord du Maroc, il y a des petits tronçons qui appartiennent à l'Espagne. Les plus connus sont ceux de Ceuta et Melilla. Je suis complètement désolée pour la prononciation. Mais la frontière entre le rocher de Badiz, qui appartient aussi à l'Espagne, et le Maroc, mesure un tout petit 80 mètres.
OK, juste ça. Oui. Ça vaut la peine, ça, une frontière de 80 mètres. Là.
Oui, mais c'est comme vraiment... ça fait comme une presqu'île, en fait, là, si tu veux.
Comme une pointe.
Ouais, exactement. Puis c'est, ça s'appelle le rocher de Badiz. Il y a à peine 100 personnes qui habitent sur ce caillou.
Pas sur
le
80... mètres de...
La largeur est de 80 mètres, mais ça fait comme vraiment... comment je pourrais dire ça?
Ça s'élargit après, là. C'est
exact,
juste le petit bout qui est pointu.
Mais on s'entend, ça s'élargit, c'est pas non plus plusieurs kilomètres carrés de superficie.
Combien
là, ça
de
reste
kilomètres?
Très petit. Je dirais que ça ressemble un peu au Mont-Saint-Michel, pour ceux qui savent de quoi je parle, là, en France.
Ouais, encore une fois, pas pour moi, là.
C'est ça. Donc, c'est ça, il y a une centaine de personnes qui habitent ce petit vestige du temps des colonies où la monnaie officielle est l'euro, étant donné que ça appartient à l'Espagne. Parce que oui, si une personne traverse la frontière pour atteindre le rocher de Badiz depuis le Maroc, ben théoriquement, elle se retrouve en territoire européen, même si en réalité, elle n'est pas sortie du continent africain.
Ah, ben c'est intéressant.
Ouais.
T'es en Europe sans être sur le continent.
Ouais, puis il y a des rumeurs comme quoi que ces tronçons-là serviraient à limiter l'immigration clandestine, tout ça, mais bon, à quel point ça fonctionne et comment, je sais pas. Mais c'est plus pour dire qu'il y a un barrage de l'Europe à même le Maroc, là, mettons, là.
OK, ouais, ça.
Il y a aussi plusieurs pays qui ont perdu à la pige du découpage des territoires. On peut certainement penser, par exemple, à la façon dont le continent africain, justement, a été séparé. Mais comme j'ai pas de doctorat en géopolitique, je vais m'abstenir d'élaborer trop là-dessus et plutôt parler d'autres pays qui n'ont pas mis la main sur le jackpot des frontières. Le premier, on y a été l'an dernier, c'est la Bosnie-Herzégovine.
Mm-hmm.
Petit résumé géo-historique ici là, pour les personnes qui vivent dans une grotte. Avant d'éclater dans les années 90, la Yougoslavie était composée des actuelles Croatie, Slovénie, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord, Kosovo et Bosnie-Herzégovine. Si tu veux, la Yougoslavie, c'est l'union des Slaves du Sud. Parce que Youg, ça veut dire Sud, puis Slavie, ben...
Ouais, Slavie, le Slavie est clair, là.
Donc voilà, mais ces peuples slaves ne partagent pas toutes les mêmes caractéristiques culturelles, linguistiques, religieuses. On l'a vu, par exemple, en Croatie, même leur alphabet, il n'est pas cyrillique, il est plus latin.
Ouais,
tandis qu'en Bosnie, il est plus,
peu, ouais.
Justement, cyrillique. Il y a beaucoup plus de communautés musulmanes en Bosnie, plus des communautés chrétiennes en Croatie,
ouais.
Bon, tout ça. Donc, tout
ce
ça,
qui
ben,
a créé la guerre en soi, là.
Exactement. Ça l'a éclaté et il y a différentes communautés qui se sont formées, dont justement les Croates et les Bosniaques qui ont été parmi les premiers à affirmer leur indépendance. Ce qui, soit dit en passant, ne faisait pas l'affaire de tout le monde parce que c'est pas juste, bon, ça a éclaté puis la guerre est finie, là, au contraire.
Oui, les Serbes n'étaient pas très contents, là.
Non, c'est ça. Il y a eu plusieurs conflits armés entre les différents peuples, notamment entre les Serbes et les Bosniaques. Aujourd'hui, la situation politique est pas mal plus stable, mais on sent quand même dans l'air là, que l'histoire est pas si lointaine. Là. On parle d'une trentaine
comme...
d'années.
C'est
là.
Ça, c'est les années 90, là, c'est ouais. Vraiment récent.
Oui, on dit ça aussi pour se rajeunir un petit peu parce qu'on est dans les...
Oui, non, mais sur l'histoire de l'humanité, comme dans
oui.
Le fond, c'est genre les personnes de 60 ans, ils l'ont connu la guerre, là, puis l'ont
oui,
fait,
oui.
C'est pas genre la Première Guerre mondiale ou la
exactement.
Deuxième.
Alors ma question, est-ce que tu te rappelles la particularité géographique de la Bosnie-Herzégovine?
Ben, j'imagine que tu veux parler du fait qu'il y a une pointe qui touche au bord de mer, ce qui transperce un peu la Croatie, parce que tu peux pas accéder à Dubrovnik sans passer par la Bosnie, en fait.
Exactement. Donc, les Bosniaques ont un accès aux eaux internationales uniquement par la ville de Neum, je sais pas trop comment on le prononce, N-E-U-M, là, si vous voulez googler ça. qui coupe la Croatie en deux. Donc, pour aller de Zagreb à Dubrovnik, par exemple, il faut absolument passer par la Bosnie, peu importe si tu passes par là ou par toute autre ville.
À cette heure, il y a un pont, mais oui, qui te permet de le faire autrement, mais sinon, t'as pas le choix.
Ben, ça passe par-dessus la ville, puis ça fait juste en sorte que t'as pas besoin de sortir ton passeport, parce que la Bosnie fait pas partie de l'Union européenne, la Croatie, oui, bref. Ce tronçon-là fait à peine 20 km, mais ça reste le seul accès à la mer Adriatique. Pis c'est une façon aussi, justement, pour la Croatie, de rejoindre le Monténégro puis bon, les autres pays de l'ex-Yougoslavie. Mais ça pourrait être pire parce qu'il y a 44 pays qui n'ont pas d'accès direct à l'océan ou à la mer, c'est-à-dire qui sont entourés d'autres pays. C'est ce qu'on appelle des pays enclavés. Pour te donner quelques exemples, c'est le cas du Laos, de la Bolivie, de l'Éthiopie, de l'Autriche, entre autres. Il existe aussi deux pays qui sont dits doublement enclavés, c'est-à-dire qui sont entourés de pays qui eux-mêmes n'ont pas un accès direct à la mer ou à l'océan. Je pense que tu me vois venir. Est-ce que tu saurais me dire de quel pays il s'agit?
Non, parce que mon réflexe aurait été de dire l'Autriche, puis tu viens de dire qu'elle était juste enclavée normale. Fait que,
ben, peut-être qu'elle est doublement enclavée, puis je t'ai joué un tour.
Aucune idée.
OK, ben, t'es pas très
Kazakhstan.
Loin. Non, mais t'es pas très loin dans les deux cas. Le premier, c'est le Liechtenstein qui partage ses frontières avec l'Autriche et la Suisse. Et le deuxième, c'est l'Ouzbékistan qui est entouré du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, de l'Afghanistan et du Turkménistan.
Ben, c'était clair que c'était en Europe et c'était pas genre... Ah ben, en fait, il y en a clairement
en Afrique. En Europe et en Asie.
En Afrique, il y en a clairement, là.
Non, c'est les deux seuls.
Ah ouais?
Ouais. Que tu dois traverser deux pays pour atteindre l'eau.
Huh.
Ouais, fait que eux ils ont vraiment perdu à la loterie des frontières. Dernière chose sur les territoires enclavés, là c'est important que tu me suives. Dala Kagrabari, je m'excuse encore une fois pour la prononciation.
Je suis déjà perdu, désolé, bonne journée!
Donc, Dala Kagrabari, c'est un petit territoire indien.
Okay.
L'affaire, c'est qu'il se trouve dans une enclave bangladaise, elle-même enclavée dans un autre territoire indien, le tout dans le Bangladesh à côté de la frontière de l'Inde. Fait que dans le fond, t'as quatre niveaux. Si on le prend à l'inverse, là, c'est peut-être plus simple pour certaines personnes.
En ce moment, c'est comme un casse-gueule, de genre, comme il y en a un, comme... Ou c'est une
c'est
poupée
des
russe.
Russes, exactement. Si tu le prends à l'inverse, t'as le Bangladesh. À l'intérieur du Bangladesh, t'as un territoire indien qui encercle un territoire bangladais qui lui-même entoure Dala Kagrabari, qui est un territoire indien. Je sais pas vous, moi, ça me donne mal à la tête.
Genre, on dirait que l'image que j'ai aussi, c'est genre, tu sais, le vieux meme de Exhibit, là, genre, « Oh, I know you like India, so I put India in your Bangladesh. »
Exactement. apparemment que je suis pas la seule à qui ça donne mal à la tête, ou bien que c'est que les caisses d'Advil, c'est trop cher, parce que l'Inde et le Bangladesh se sont entendus en septembre 2011 pour résoudre le problème des 162 enclaves, parce que non, Dala Kagrabari n'était pas la seule, mais certainement la moins logique.
Ben des Inception, non?
Ouais, bref, les États se sont dispatchés le tout et ont laissé aux résidents de ces territoires le libre choix de leur nationalité, donc ils pouvaient choisir s'ils étaient indiens ou bangladais. Dala Kagrabari a été officiellement cédé au Bangladesh en 2015. De retour en Europe maintenant. Si tu connais ta géographie, tu sais que... Will, tu connais un petit peu ta géographie quand même.
La France.
Oui. Ben, tu sais que tout le nord de la Suède partage la frontière avec la Norvège?
Oui. Oui, oui.
Genre, la Suède n'a pas d'accès à la mer par le nord.
Mais par le sud, oui.
Par le sud, oui. Okay. Puis par l'est. Youh. Je vous promets que je vais mettre une photo de ça sur Instagram parce que c'est juste tellement beau. Cette frontière-là, on dirait une piste de luge qui s'éternise jusqu'au pôle Nord. Okay. Je vous explique. En fait, cette partie-là du monde, c'est une grande forêt qui, je ne pense pas, est habitée par trop de monde.
Par des animaux, j'imagine.
Ouais, c'est ça, mais dans le sens où il doit faire frais tant petit pépère là-bas. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déforesté un chemin, vraiment pour marquer clairement la délimitation. Okay. Mais c'est tellement comme... Ça va vraiment en vallée, tout ça. Puis nos amis scandinaves, ils ont décidé de s'en servir comme piste de motoneige.
Ah, nice!
Mais c'est comme... T'as l'impression, là, vraiment que c'est un toboggan, là.
Je suis pas un gars de skidoo, puis genre, tu viens de me donner le goût d'en faire, là.
Ouais, mais moi aussi. Je suis zéro skidoo, mais ouais. Là, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, faudrait que j'aille là à un moment donné dans ma vie. » Autre frontière assez insolite, savais-tu que tu pouvais passer de l'Espagne au Portugal en tyrolienne?
I mean, tu viens de me donner un nouvel objectif de vie, là.
Oui, je sais, moi aussi. Comme une tyrolienne normale, tu t'accroches à Sanlúcar de Guadiana en Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne, et tu atterris à Alcoutim en Algarve, donc dans le sud du Portugal. Elle est longue de 720 mètres, c'est la seule tyrolienne au monde évidemment à relier deux pays, et les gens qui la testent peuvent atteindre une vitesse entre 70 et 80 km/h, fait que ça prend moins d'une minute là, à aller chez les voisins. Puis en plus, ben, on gagne une heure étant donné qu'il y a un décalage horaire entre l'Espagne et le Portugal.
Ok, ça fuck pas vraiment du tout. Disons, comme, c'est quoi l'ouverture? Tu sais, à quelle heure ça l'ouvre? La tyrolienne.
Non, c'est ça. Puis, ben, comme c'est deux pays de l'Union européenne, je pense que t'as pas besoin de, tu sais, passer une douane, là.
J'aimais ça l'image. T'as le douanier avec l'étampe
juste
en haut.
Au milieu de la tyrolienne.
Non, mais t'en as un en haut, puis t'en as un en bas, tu sais.
Ouais, c'est ça, exactement. Probablement, par contre, que tu dois quand même présenter tes papiers avant de monter dans la tyrolienne pour montrer que t'es pas un immigrant illégal, etc. Mais bref, parlant de décalage horaire, transportons-nous entre l'Alaska et la Sibérie, plus précisément dans le détroit de Bering où on retrouve les îles Diomède. D'un côté, la Grande Diomède appartient à la Russie et de l'autre, la Petite appartient aux États-Unis.
Okay.
Il y a moins de 4 km qui les séparent, puis en hiver, ben l'eau est glacée parce que c'est l'océan Arctique, fait que c'est possible
de marcher.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est possible de marcher pour rejoindre l'île voisine, mais vraiment vos risques et périls parce que la Grande Diomède sert de base militaire russe, puis mettons qu'ils ont le go pour tirer sur pas mal n'importe qui s'approche de l'île.
Les Russes.
Oui, c'est ça. Moins de 4 km donc séparent ces deux îles-là, mais autre chose aussi, la ligne de changement de date. Est-ce que tu sais c'est quoi?
Sais-tu qu'ils sont pas la même date, justement à cause du changement d'heure qui doit être majeur?
C'est ça.
Parce qu'il y en a un qui est comme d'un bord de la map, puis de l'autre qui est de l'autre bord.
Ouais, c'est ça, exactement. La Grande Diomède a 20h ou 21h d'avance sur la Petite Diomède selon la saison.
Ok, je pensais pas à ce point-là. Là.
Ouais, ça veut dire que s'il est lundi 23h sur la Petite Diomède, donc celle qui appartient aux États-Unis, il est mardi 20h sur la Grande Diomède, donc celle qui appartient à la Russie.
Ouais.
Pourquoi pas 24h? Parce que les États-Unis ont décidé de mettre la Petite Diomède au même fuseau horaire que l'Alaska, qui est comme pas mal le point le plus proche des États-Unis. Puis l'Alaska, c'est sur le réseau UTC-9 au lieu de -11, ce que devrait être la Petite Diomède, dans le fond. Fait qu'il y a comme 2 heures de...
Il y a un décalage de ce que ça serait réellement. Un peu comme dans l'épisode qu'on a fait sur les fuseaux horaires.
Ouais.
Que, dans le fond, toute la Chine est sur un fuseau unifié, même si ça n'a pas
aucun
sens.
Ouais, alors
qu'il
devrait être sur 3-4 fuseaux horaires
différents.
Mais
exactement, mais parce que sinon, comment veux-tu être un pays uni?
Oui, c'est ça. Puis ben la Grande Diomède, c'est sur le réseau UTC plus 12. Fait qu'au final, ça fait 20h ou 21h selon les saisons. Il y a beaucoup de gens qui disent sur la Petite Diomède que quand ils regardent la Grande Diomède, c'est comme s'ils voyaient le futur. Fait qu'ils l'appellent l'île de demain. Et la Petite Diomède est appelée l'île d'hier.
Mais où l'île d'aujourd'hui?
Elle n'existe pas.
Oh non! C'est le chemin de glace.
C'est ça, exactement. Selon le dernier recensement, la Petite Diomède est actuellement habitée par 83 personnes, essentiellement issues du même peuple inuit. Ils ont un bâtiment qui sert d'école, de gymnase, de salle de réception, de mairie, de terrain de basketball,
toute l'équipe.
Oui, parce qu'en même temps, pour 83 personnes, on va pas construire 6 bâtiments différents.
Ça,
la vie, y est, je le cache pas, assez difficile, selon ce que j'ai pu voir dans mes recherches, que ce soit à cause de la météo, qui dépasse souvent les moins 40 degrés en hiver, ou encore le coût de la vie. À titre d'exemple, une bouteille de détergent coûterait aux alentours de 44 $.
Fait que ton linge sale, tu le portes souvent, là?
Ouais, c'est ça. Tu vas le laver dans la mer, au pire. L'île est ravitaillée une fois par semaine grâce à un hélicoptère, évidemment, si la météo est clémente, puis les produits, on s'entend, sont pas toujours frais, là.
Mm-hmm.
Puis même, je pense qu'il y a un infirmier sur place qui fait partie de cette communauté-là,
non, parce que c'est pas un gros
hôpital, là. Mais qui travaille en télémédecine avec l'hôpital en Alaska, parce que c'est ça, il n'y a pas d'hôpital sur l'île. Changeons d'île maintenant. L'île des Faisans, c'est une île de la taille d'un terrain de soccer entre la France et l'Espagne et pour laquelle les deux pays se sont longtemps battus. Plutôt que de céder ou de la diviser en deux, ils ont trouvé une solution pour le moins originale, c'est-à-dire une garde partagée.
Hein? C'est parce qu'ils veulent aller jouer au soccer chacun leur tour? C'est quoi cette affaire-là? Ils font des tournois? Qu'est-ce qui se passe?
Non, ça a la taille d'un terrain de soccer, mais c'est pas un terrain de soccer.
Mais ça sert à rien, ça! Tu peux juste la donner à quelqu'un si personne l'utilise, ton île de merde!
Mais là, attends, c'est ça. C'est, puis là, c'est pas une garde partagée une semaine sur deux ou une fin de semaine sur deux. Du 1er février au 31 juillet, l'île est sous gouvernance espagnole et du 1er août au 31 janvier, elle est sous gouvernance française.
Fuck off. Perte de temps.
Puis ben évidemment, c'est comme ça chaque année. Heureusement, il y a personne qui habite là. Elle est même interdite d'accès aux visiteurs. Fait que ça simplifie l'administration. Parce que t'imagines, là, à chaque 6 mois, tu changes de nationalité. Faut que tu fasses tes impôts 2 fois par année. Je peux pas croire, là. Mais, je sais pas.
Mais là, fait que tu me confirmes encore plus que ça sert à rien comme
ben,
projet.
Non,
là.
C'est pas vrai. Parce qu'elle a servi à des rencontres historiques, entre autres, entre le roi d'Espagne et le roi français. Ouais. Mais... c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais en même temps, tu sais, elle n'est pas grande, là. Il y a comme un monument.
Mais justement, pourquoi se faire chier pour ça?
Ben, parce qu'il faut conquérir le maximum de territoire, ouais. William.
Franchement.
La prochaine frontière, c'est ni plus ni moins celle qui m'a donné envie de faire ce sujet. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode que j'ai préféré écrire. J'ai nommé là, ou plutôt les frontières de Bâle. Bâle, c'est une ville qui est située aux Pays-Bas. Par contre... pas moins de 26 zones ou quartiers, si tu préfères, de la ville appartiennent à la Belgique.
OK, OK. Fait que c'est vraiment divisé. Est-ce que c'est comme tout relié à une
ben,
frontière?
Ben, c'est comme
ou...
si, mettons, Villeray appartient aux États-Unis. Après le
ça,
plateau Anse... Mont-Royal aussi. West Island.
Ça se touche pas toutes nécessairement, en fait, les zones.
Non, c'est ça, exactement. Puis il y a seulement 4 de ces zones-là qui sont physiquement reliées, là, collées okay, ouais, sur ça. La frontière belge. Fait que si tu veux, Bâle, c'est 2 villages. T'as Bâle-Nassau qui appartient aux Pays-Bas, en fait, et Bâle-le-Duc qui appartient à la Belgique. Puis ça s'entremêle tel des écouteurs dans tes poches. Un peu comme dans la Kagrabari, donc avec l'Inde et le Bangladesh, dans Bâle-Nassau, t'as des parties de Bâle-le-Duc qui, à leur tour, enferment des parties de Bâle-Nassau, etc. Fait que, encore une fois, ça fait un peu les poupées russes. La ville est donc parsemée de signalisations pour que tu saches toujours dans quel pays tu es. Littéralement, dans chacune des rues, il est indiqué au sol NL pour Pays-Bas et B pour Belgique. Parce que des fois, même dans... certaines rues, t'as la frontière qui passe.
Fait, ah, fait que t'as
les
deux, t'as les
deux indications. Ouais. Mais même si les frontières figurent partout au sol, tu comprendras que c'est un méchant casse-tête pour certaines personnes parce que la frontière, elle passe aussi à travers des commerces et même des maisons, comme je le disais en prémisse de cet épisode. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on suit la règle de la porte d'entrée. Fait que si la porte principale est située du côté néerlandais, ça veut dire que le bâtiment est en territoire des Pays-Bas et vice-versa. Si elle est située du côté belge de la frontière, ben c'est un bâtiment belge. Évidemment, ça peut pas être aussi simple que ça, sinon ce serait pas rigolo. Faut savoir que le découpage frontalier de Bâle a été officiellement adopté en 95, mais la commune vit cette dualité depuis plus de 800 ans. En fait, la ville a été découpée en se fiant à des cartes qui auraient été créées en 1198.
OK. Fait qu'il y avait pas toutes les maisons, justement, là, qu'on parle là, nécessairement de construites, là.
Non, non, c'est ça. Puis j'ai des petites nouvelles pour vous. Il y a eu des évolutions depuis le Moyen-Âge. Ce qui fait que quand le tout a été revu en 95, ben les gens se sont rendus compte que leur maison, même si elle n'avait pas bougé d'un millimètre, était pas dans le bon pays. Je m'explique. C'est le cas d'une octogénaire belge. Sa maison était traversée par la frontière et sa porte était située du côté des Pays-Bas. Semble-t-il que c'était bien important pour elle d'habiter en Belgique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû refaire sa porte d'entrée du bon côté de la frontière à tout juste 1 mètre de celle d'origine.
OK, fait que même pas de l'autre bord de la maison, là, juste tasser la porte, là.
Exactement.
Hey, ça, c'est vraiment de l'enculage de mouche, tout ça. Là.
Ben, mais, c'est aussi que, tu sais, c'est pas un projet d'un samedi après-midi. Là. Ça prend du temps, là, déconstruire une porte puis en construire 4, une autre.
80
là.
Aussi, là, oui.
C'est ça. C'est un méchant casse-tête pour certaines personnes parce qu'on aurait pu se dire, comme, ben, c'est pas grave que ça porte sur au Pays-Bas, pis tout ça, mais ça risque que les législations sont pas nécessairement les mêmes. Tout ça, quand t'es belge, t'es pas néerlandaise. Fait qu'il fallait quand même que ça porte soit en Belgique. Mais évidemment, ça peut pas être aussi simple que ça, hein, sinon ça serait pas rigolo.
Là, là.
Qu'est-ce qu'on fait si la frontière passe directement sur la porte? Ben, les résidents ou commerçants que ça concerne sont dans l'obligation de déclarer 2 adresses. On espère qu'ils aiment la paperasse administrative, hein? Mais évidemment, ça peut pas être aussi simple que ça, hein? Sinon, ce serait pas rigolo.
On y va combien de layers comme ça encore, là?
Tu vas voir!
OK.
Les adresses belges et néerlandaises ne sont pas uniformes. Fait qu'il y a une maison, par exemple, qui est traversée par la frontière au niveau de la porte. Puis ben, elle est située à la fois aux 2 rues de Lovren en Belgique et aux 19 rues de Lovren aux Pays-Bas.
Au moins, c'est le même nom de rue. Là. On va
ouais,
leur
c'est
donner
pas le même
ça,
chiffre.
Là, mais... Oui, non, c'est vraiment con.
T'sais, pourquoi ils s'entendent pas sur le chiffre? Puis même, tu sais, les encadrés, justement, les numéros de porte, il est bien indiqué avec un petit drapeau belge.
Ouais, c'est pour l'adresse savoir, c'est belge. Puis... Oui, parce que sinon, c'est l'enfer.
C'est ça. Mais évidemment, ça peut pas être aussi simple que ça, sinon, ça serait pas rigolo.
Non.
Durant la pandémie, Barl a fait des manchettes parce que les règles sanitaires n'étaient pas les mêmes en Belgique et aux Pays-Bas.
Ah!
Par exemple.
Quelle perte de temps.
Le masque était obligatoire en Belgique, mais pas aux Pays-Bas. Même chose pour le confinement, les Belges étaient confinés, mais pas les Néerlandais. C'est quand même chien pour les Belges.
Mais genre, est-ce qu'il fallait qu'ils marchent en zigzag? Comme
non, non, ils pouvaient, les Néerlandais pouvaient sortir puis passer partout où ils voulaient. C'est juste que j'imagine qu'il y avait leur papier d'identité pour prouver qu'ils étaient Néerlandais. Bref, tu t'en doutes peut-être, oui, les maires, bureaux de poste, corps policier, code du travail, la ville d'à peine 10 000 habitants a tout en double, en version belge et en version néerlandaise. Même l'âge légal pour boire de l'alcool est différent, c'est de 16 ans en Belgique et 18 ans aux Pays-Bas.
Fait que c'est sûr que tout le monde va boire en Belgique, là, c'est même pas une question, là, genre...
Exactement. Mais il y a également des avantages à changer de pays en traversant la rue, justement. Certains biens et services coûtent moins cher d'un côté, comme le gaz en Belgique ou encore la bouffe aux Pays-Bas. Les commerces se sont donc construits autour de cette réalité. Tu trouveras plus de stations-service du côté belge et plus d'épiceries du côté néerlandais. On s'entend aussi que, de manière générale, c'est quand même moins pénible grâce à l'espace Schengen, qui permet la libre circulation dans la plupart des pays d'Europe.
Ah, sinon, ça serait un calvaire. T'aurais genre des douaniers dans toutes les bâtisses, là.
Ben, c'est ça. Imagine si ça n'existait pas. Tu pourrais pas aller chercher ton lait sans ton passeport.
J'aime pas ton regard.
Ce serait plate, hein, que ça existe.
Vas-y.
Ben, c'est le cas chez nous, en Amérique du Nord.
OK.
On a une frontière bizarre, puis c'est pas parce que c'est la plus longue au monde que je dis ça. Si tu regardes bien comme il faut la ligne entre le Canada et les États-Unis, elle est pas tout à fait droite. Au nord du Minnesota, qu'est-ce qu'on retrouve? L'angle nord-ouest. C'est un territoire américain. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, c'est une exclave. C'est-à-dire qu'il touche pas au reste des États-Unis, un peu comme Dubrovnik avec le reste de la Croatie.
OK.
L'affaire, c'est que le lac des Bois sépare l'angle nord-ouest du reste des États-Unis, puis il y a pas beaucoup de commerce dans cette zone, comme il y a à peine une centaine de personnes qui y habitent, là, un peu comme les îles Diomède.
Fait que dans le fond, c'est pas comme les grands lacs où ça traverse au milieu du lac. Comme, t'as le lac qui est coupé, puis là, genre, les États-Unis dépassent, là.
C'est ça, on va y venir. Mais essentiellement, c'est ça, c'est comme pas rattaché directement aux États-Unis.
Ouais.
Donc, c'est ça, il y a pas beaucoup de commerce dans cette zone, comme il y a à peine une centaine de personnes qui y habitent. En fait, il y a une école, une église, un bureau de poste et un tout petit magasin général que tu peux trouver autant des chandails que des produits alimentaires. Donc, pour faire des courses plus complètes, tu n'as pas le choix d'aller à War Road au Minnesota à un peu plus de 100 km. Ça implique évidemment que tu dois prendre ton passeport étant donné que tu passes par le Manitoba pour aller aux États-Unis. Fait qu'aller-retour, là, ça peut prendre 3-4 heures.
Ouais, parce que dans le fond, il y a du trafic aux douanes.
Ben c'est ça, tu dois passer 4 fois les douanes parce que tu sors du Minnesota, ben de l'angle nord-ouest, pour aller au Manitoba, pour aller aux États-Unis.
Mm-hmm.
Puis après, ben tu repars pour retourner au Manitoba, pour retourner au Minnesota, c'est-à-dire à l'angle nord-ouest. Fait qu'il faut la planifier en sapristi, là, ta virée au Costco. Heureusement pour les habitants, le lac est rempli de poissons, fait qu'ils peuvent pêcher. Moi, je serais pas très heureuse là-bas, mais bon, c'est quand même une bonne petite solution. Tu dois te demander justement pourquoi ce lopin de terre appartient pas tout simplement au Canada. Ben, pour comprendre ça, il faut remonter à la signature du traité de Paris en 1783. Les Américains y obtiennent officiellement leur indépendance, fait qu'il faut déterminer quel territoire ils pourront gérer puis quel reste sous la régie britannique, là, c'est-à-dire le Canada. Ils se basent sur une carte créée en 1755. Le lac des Bois devait donc être séparé en deux, comme tu suggérais tout à l'heure. Il y a une moitié pour le Canada, une moitié pour les États-Unis. Jusqu'ici, ça va, c'est logique. L'affaire, c'est que cette fameuse carte-là, la zone où se situe l'angle nord-ouest, était caché par une autre carte qui fait un zoom sur la baie du Tison. Tu sais, des fois, là, quand tu prends des cartes du monde,
ouais, c'est juste comme
du Pacifique, mettons, qui est caché par un zoom. Ben, c'est ça, exactement. Fait que sur la carte, ça avait l'air d'un parfait ovale, alors que si tu vas voir sur Google Maps de quoi a l'air le lac, là, il y a plus la forme d'un poisson avec une petite lanterne comme dans Nemo, là.
Mm-hmm.
Tu sais, le poisson vraiment lettre, là. Bref, les Américains se sont éventuellement rendus compte de leur erreur de cartographie, mais ils ont préféré pas le dire pour pas que ça entache les négociations avec la Grande-Bretagne, puis qu'ils puissent avoir leur territoire et leur indépendance. En 1818, par contre, les États-Unis et le Canada se sont entendus pour délimiter la frontière au 49e parallèle, pour que ce soit plus simple. Puis le Canada a laissé l'angle nord-ouest aux Américains pour justement pas contredire le traité de Paris, puis que ça fasse encore plus de paperasse.
C'est pas leur problème, c'est le problème des Américains.
Ben c'est ça, puis en même temps, ça changerait pas grand-chose pour le Canada d'avoir ce territoire-là. T'sais, c'est pas un immense territoire,
ouais,
il y a une centaine
peine,
de personnes qui habitent, il y a pas grand commerce, tout ça, fait que... Est-ce que ça va, Will, t'es toujours avec moi, là?
Ouais, je me dis juste, ben c'est plus grand que la petite crise d'île pour gros comme un terrain de soccer pour lequel les autres se battent, mais regarde.
T'inquiète pas, on termine en simplicité. J'ai envie de te parler des tripoints.
OK.
Ces endroits où les frontières de trois pays se rencontrent, notamment le Three Countries Corner, qui marque la frontière entre la France, la Suisse et l'Allemagne, où j'ai pris une belle petite photo en 2019 parce que c'est pas tous les jours que je suis dans trois pays en même temps.
Ben non.
Pour les quadripoints, donc une frontière ou en tout cas un endroit où il y aurait quatre pays qui se rencontrent, si on regarde vite, on pourrait croire que les frontières de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et du Botswana se rencontrent, mais en fait, la Namibie et le Zimbabwe ne se touchent pas. On parle en fait plutôt de deux tripoints à 150 mètres l'un de l'autre. Fait qu'ils étaient proches.
Ouais, c'est ça, on était proches de l'avoir, là.
Le premier tripoint, c'est entre le Botswana, la Namibie et la Zambie, et le deuxième entre le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie. Les quadripoints qui existent ne concernent pas des pays, donc, mais des villes comme Bâle, justement, c'est-à-dire que t'as certaines zones de la ville où t'as deux zones belges qui se font face et deux zones néerlandaises qui se font face, là, fait que ça fait comme un quadrilatère, là, si tu veux.
Mais si c'est deux pays, si deux fois la Belgique qui se touche, c'est...
C'est pour ça que c'est comme...
C'est pas tant un quadripoint parce que... Tu peux dire, il y a des atomes qui les tiennent entre les deux. C'est le point fait que ça se tient ensemble. C'est quel point ça se termine? Y a-tu un petit rond au milieu qui a personne? En tout cas.
T'essayes-tu de me donner mal à la tête, là?
Oui. As-tu marché?
De te venger, c'est ça. Mais il y a aussi entre des États. C'est le cas de l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, notamment. Donc, la frontière est délimitée par le Four Corners Monument avec un cercle au milieu où on peut se retrouver dans les quatre États simultanément si jamais ça vous intéresse d'aller le visiter. Fait que voilà pour ma partie. J'espère que justement, je t'ai pas donné trop mal à la tête. Sinon, on a des Advil, là, tu pourras en prendre.
Ouais, je reviens. Donne-moi 5 minutes, je reviens pour ma partie. Non, pour vrai, c'est super intéressant. Plein de trucs qu'on a appris par rapport à ces beaux territoires. On apprend vraiment plus sur le monde dans lequel on vit. Et parlant d'apprendre plus sur le monde dans lequel on vit, il y a des endroits qu'on se demande s'ils existent réellement ou non. Dont mon sujet du jour, l'Atlantide. Parce que oui, cette saison, c'est une saison... de résolution de mystères marins. Hein. Dans l'épisode 38, on parlait des câbles Internet sous l'eau et tu as parlé du triangle des Bermudes. Donc, plein de grands mythes qui sont touchés cette année. Ben, tout comme le triangle des Bermudes, il y a eu des centaines de documentaires qui ont été faits sur l'Atlantide. Mais sur toutes ces théories-là, ils n'ont pas nécessairement de lien ensemble. Là. Ça va jusqu'à des extraterrestres qui vivent sous l'eau. Là, puis que c'est...
C'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Mais pour être complètement honnête avec toi, Hélène, je pense pas avoir dû écouter un seul de ces documentaires-là. Et ce, malgré le fait que mon père écoutait toujours Canal D.
Ouais, moi non plus, je pense pas. Tu sais, j'ai vu dans des histoires ou comme plus dans des films ou téléséries, mais pas.
C'est ça, c'est
pas
toujours.
Des documentaires de comme, OK, là, qu'est-ce qu'il y en a de l'Atlantide?
J'ai jamais écouté, même si je sais qu'il en existe énormément. Tout ce que j'ai vraiment écouté, c'est le film Atlantis de Disney sorti en 2001 et Aquaman.
Des sources très fiables dans
son
mémoire.
Exactement. Du coup, j'avais absolument aucune idée d'où provenait exactement le mythe. Avant mes recherches pour cet épisode d'aujourd'hui, à part que c'était peut-être vaguement relié avec les mythologies grecques.
Oh, vaguement.
Non, mais...
Mais ouais, je t'aurais dit ça, moi aussi.
Donc, j'avais envie de creuser un peu dans l'histoire, savoir c'est quand qu'on en a parlé pour la première fois, puis y a-t-il une petite part de vérité dans tout ça, ou c'est juste un gros tissu de mensonges qui vient de la science-fiction, que c'est aussi réel que Star Wars, mettons. Du coup... Hélène, saurais-tu me dire, selon toi, qui est la première personne à avoir parlé de l'Atlantide dans l'histoire?
Mais moi, je t'aurais dit quelque chose en lien avec la mythologie grecque, fait que genre Homère, ou sinon, si c'est pas en lien avec la mythologie grecque, un auteur style Jules Verne ou...
Ben, Jules Verne a parlé d'Atlantide dans 20 okay. milieux sous les mers.
On voit que j'ai lu le livre.
Ben, ça... ben,
je suis une personne très culturée.
C'est Jules Verne, 20 milieux sous les mers?
Il me semble que oui.
La première personne qui en a parlé, ce n'était pas un historien, ce n'était pas un cartographe, ce n'était pas Homère, c'était Platon.
OK, un philosophe.
Oui, donc un philosophe, donc ça vaut ce que ça vaut comme source pour ce genre de choses-là.
Mais comme on dit, il y en a fumé de la bonne.
Mais pourquoi est-ce que Platon parlait-il d'une île mystérieuse entre deux citations comme « Donne et tu recevras »
Eh bien, qu'il avait pris de la bonne drogue.
Pas nécessairement, mais en fait, c'était dans le cadre d'un récit de vertu du grand peuple d'Athènes, donc pour montrer à quel point les Athéniens étaient incroyables.
Évidemment.
Cette histoire avec un petit H est raconté par le philosophe comme étant une histoire véritable et d'un intérêt capital, je le cite.
Bien sûr.
Donc, ouvrez donc grand vos oreilles, il n'y a rien de complètement absurde qui s'en vient dans les prochaines minutes. Tout est ancré sur du solide et du réel. L'histoire en soi raconte un affrontement entre deux cités, soit Athènes, vouée à la justice, et Atlantis, vouée à la démesure et l'abus. Donc, ça commence bien pour...
Dans le fond, Atlantis, c'est Las Vegas, là.
Non, pas nécessairement, mais oui, peut-être...
Ben, la démesure et...
Oui, ben, des gens qui ont vu plus gros que leur pense, disons. L'île en question aurait appartenu au dieu Poséidon, ayant obtenu celle-ci en tirant à courte paille lorsque les dieux se sont partagés la Terre. Celle-ci aurait toujours été, selon Platon, été plus grande que la Libye et l'Asie réunies.
La Libye? Qu'est-ce que la Libye vient faire là-dedans?
Ben, c'est l'autre bord de la Grèce.
Ah ouais,
souvent dans les textes dans grecs, on parle souvent de l'Égypte et la Libye, d'où aussi pour les partages des dieux, etc. avec l'Égypte.
C'est quand même drôle, la Libye et l'Asie.
Oui, non, mettons que Platon, il a pas visité beaucoup d'autres pays. Je pense qu'il a déjà été en Égypte, mais il a pas été visiter toute l'Asie.
En
c'est
même
pas
temps,
la grandeur.
À pied, c'est un petit peu difficile de parcourir le monde.
Des bateaux. Ouais. L'île aurait aussi été située de l'autre côté de ce qu'on appelait à l'époque les colonnes d'Hercule.
OK.
Les colonnes d'Hercule, en langage d'aujourd'hui, c'est le détroit du Gibraltar dont on parlait tout à l'heure. Donc, la petite embouchure entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Là.
Ce serait du côté Méditerranée ou Atlantique?
Atlantique, c'est Atlantis.
OK, c'est ça.
Oui.
Tu m'as toujours demandé si ça avait un lien, puis on dirait que j'ai jamais fait de la recherche, fait que je suis vraiment contente que tu fasses
J'y arrive bientôt. Donc, une fois les territoires distribués, Poséidon se serait alors rendu sur l'île et se serait uni avec une jeune femme mortelle nommée Clito. Il n'y a pas de blague avec ça, c'est vraiment juste son nom. Elle a un petit accent circonflexe sur son haut.
Tu dis-tu il n'y a pas de blague parce que tu as vu ma face?
Oui, exactement. Leur amour aurait peut-être pu être charmant si on oublie le fait que les dieux grecs n'étaient pas reconnus pour avoir des relations avec des dizaines de femmes partout dans l'histoire, hein, du tout. Moins pire que Zeus, mais quand même. Néanmoins, leur union n'aura pas été seulement une petite vite parce que Clito aura donné naissance à 5 lignées de jumeaux masculins, donc 10 garçons, qui se seraient ensuite séparés l'île en 10 royaumes.
Tabarnouche, 5 paires de jumeaux. Et tabarnouche.
Oui, ben c'est un dieu, hein, il fait pas ça à moitié, lui-là. Le nom de l'île est d'ailleurs tiré du nom de leur fils Atlas, pas le Atlas, pas le titan qui tient la Terre, mais ça pourrait aussi provenir de l'Atlantique, qui, elle, tire son nom du titan Atlas, donc le Atlas.
Claire?
Disons, il y a le titan Atlas, puis ils ont nommé leur fils en l'honneur du titan. Puis là, on ne sait pas si l'île a été nommée en honneur de ce fils-là ou vraiment par rapport à l'océan. Okay.
Je pensais que ma partie donnait mal à la tête, finalement.
Là, c'est mon petit bout qui donne mal à la tête, puis après ça, ça se replace.
On va aller se claquer.
Je le savais que c'était pas clair.
Oui.
Ce qui est bien de l'histoire, c'est que comme les 5 paires de jumeaux étaient des hommes, ben, ça réduit un peu le risque d'inceste. Ça permet de continuer le règne de la famille par la suite sans trop de problèmes. Du coup, les Atlantes seraient alors développés comme étant un peuple de sages, vertueux et sans faille, sur une île remplie de ressources, rendant leur ville encore mieux que la ville dans The Good Place.
Ouais.
C'est comme tout allait bien pour les Atlantes, étaient the king of the shit. Il aurait été tellement bon qu'ils se sont dit « Pourquoi pas partager notre merveillosité avec d'autres peuples à coup de conquête et d'invasion? Hein? » Parce que tu sais, c'est pas...
partager.
Oui, c'est ça. C'est pas aller...
Mettre des gros guillemets ici.
Donc, ils auraient alors envahi la Libye, l'Égypte et une partie de l'Europe avant de faire la plus grande des erreurs, c'est-à-dire tenter d'attaquer Athènes, un autre peuple touché par les dieux grecs.
Des intouchables, ça.
C'est ça. Les Athéniens, ben eux... ils étaient encore moins de la merde. Ils auraient repoussé, puis ils auraient même libéré tous les pays qui auraient été conquis par les Atlantes parce que les Athéniens sont encore meilleurs. Fait que je sais pas à quel point, finalement, ils ont le même problème, les Athéniens, là, au final, qu'eux aussi
ont créé un empire. Ils ont juste un syndrome de sauveur blanc.
Exact. Mais justement, toute cette guerre-là avec les Atlantes qui auraient été essayer d'attaquer tous ces pays, ça aurait mis Zeus en tabarnouche après les descendants de son frère qui respectaient pas l'ordre divin, qui aurait fait engloutir Atlantide dans les flots à coups de tremblements de terre et de raz de marée. Une fin ironique quand même pour la gang à Poséidon, là. Ceci étant dit, comme j'ai dit, Platon racontait pas cette histoire-là comme étant un récit fictif, même si elle a l'air très fictif de notre œil contemporain. Mm-hmm. Il racontait vraiment ça dans le cadre d'un autre ouvrage plus complet où ça permettait de ramener, genre, regardez, ça prouve qu'on est vraiment hot, les Athéniens. Le récit provient de son oncle à Platon, Critias,
okay,
dont l'arrière-grand-père, Dropides,
mm-hmm,
se serait fait confier l'histoire par un législateur, Solon, qui tenait lui-même d'un prêtre égyptien racontant des événements qui seraient survenus 9000 ans plus tôt. Donc, oui, c'est un jeu du téléphone,
ouais,
absolument
c'est ça,
horrible.
C'est une game du téléphone, ça, mais...
Mais...
Permets-moi de douter des propos du prêtre égyptien qui raconte quelque chose qui s'est passé il y a 9000 ans, là, comme, comment il peut le savoir?
Ben, peut-être que c'était des traditions religieuses, quoi que ce soit, mais
ouais,
je pense qu'on peut laisser du lousse à Platon. C'est des sources très fiables, donc tout est bien qui finit bien. Non, pour vrai, on rit de l'histoire farfelue, mais il faut tout de même se rappeler que la majorité des lieux et autres événements à l'époque étaient pas mal tous expliqués par des événements mythologiques, mm-hmm, comme ça. Donc, oui, il y a une histoire de Dieu, mais est-ce qu'il y a une véritable explication plus logique derrière cette version romancée-là?
Certainement.
Peut-être.
OK.
Parce qu'on le sait tous, hein, il y a eu je sais pas combien d'explorations sous-marines pour retrouver l'île et personne ne l'a trouvé. T'sais, c'est pas aujourd'hui de faire comme « Hey la gang, j'ai checké puis je le sais, là, c'est vraiment où? » On l'a pas trouvé encore. Une des raisons, c'est parce qu'il faudrait commencer par s'entendre sur la localisation de l'île. Parce qu'on s'entend de l'autre bord du détroit du Gibraltar.
Ouais, c'est grand, ça apprécie là, l'Atlantique.
Tu peux techniquement revenir jusqu'à l'autre bout de l'Asie, là. Tu sais, comme, ouais, c'est de l'autre bord. Et si tu sais que la Terre,
ouais,
est ronde,
ouais,
tu sais.
Ouais.
Donc, il y a des théories à gauche, à droite, tout aussi farfelues les unes des autres, outre simplement de l'Atlantique. Donc, j'ai détaillé pas tous parce que ben j'ai pas envie de mettre mon petit chapeau d'aluminium, là. Je l'avais pas de disponible aujourd'hui. Mais il y a des théories comme quoi que l'Atlantide serait en fait en Andalousie, en Mauritanie, dans la mer du Nord, dans la mer Noire, en Amérique et même en Antarctique.
Et partout.
Tu sais, comme il y a des théories de dire, ah, tout d'un coup, c'était genre les Vikings ou c'était un autre peuple qu'on sait, mm-hmm, qui a disparu. Puis on va être comme, ah, c'est ce peuple-là qui avait visité initialement. Mais c'est plus ce qu'on appelle de la pseudo-archéologie, c'est-à-dire,
okay,
un peu des liens farfelus ou qui...
Source pas totalement fiable.
Quand ta source, c'est Platon qui raconte une histoire sur Poséidon, mettons. Donc, je vais simplement vous partager l'hypothèse la plus plausible qui, encore là, ne fait pas consensus du tout, même chez les pseudo-archéologues et encore moins chez les vrais scientifiques.
Mm-hmm.
Mais c'est celle-là que j'ai envie de creuser aujourd'hui et faire ma thèse de doctorat dessus.
Mm-hmm.
Selon cette théorie, le mythe tirerait ses origines d'une éruption volcanique survenue à Santorini aux alentours de 1600 ans avant Jésus-Christ.
Okay.
Donc, à peu près, Platon est né en moins 400.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est quand même un...
1200
ans auparavant. Donc, ça a eu le temps d'être une game de téléphone, sans dire que c'est 9000 ans. Peut-être que ça pourrait fitter juste par ça. Cette éruption-là aurait résulté en un tsunami détruisant les ports et les villes de la culture minoenne qui habitait sur l'île ainsi que sur la Crète. Donc,
okay,
il y aurait eu même de l'eau jusqu'en Crète avec cette éruption-là. Donc, la situation avec les Atlantes serait une version romancée d'un peuple proche d'Athènes, anéanti par un tsunami plusieurs centaines d'années avant la naissance de Platon. Ça pourrait avoir du sens que ça provienne de là. Je vous laisse juger de la théorie, mais j'aimerais quand même, par contre, faire une petite correction, parce que même si c'est ça la théorie, c'est pas vrai que les Minoens ont été nécessairement anéantis par ce tsunami-là. Déjà, l'île de Santorini existe toujours. Hein?
Oui, tout à fait.
Donc, ça a juste détruit un peu les ports. Puis la catastrophe naturelle aurait plutôt simplement affaibli assez le peuple des Minoens pour que les Mycéniens puissent venir les envahir et prendre le dessus. Donc oui, il serait question de la fin d'une civilisation et d'une cité perdue, mais pas de façon aussi fantastique qu'on pourrait le croire.
Mm-hmm.
Du coup, si vous avez été à Santorini ou vous avez visité les ruines de Knossos en Crète, vous avez peut-être un peu visité les ruines d'Atlantide. Je dis rien.
Et où mon étampe de passeport, moi? J'ai été à Santorini.
Hey, tu disais que t'en avais déjà plein tantôt, là. Du coup, bien qu'on aimerait que l'Atlantide existe, force est d'admettre que ce n'est probablement pas le cas et qu'il s'agit plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui une île fantôme. Mm-hmm. Si ce n'est pas Santorini, disons. Ouais. Attention ici à ne pas confondre avec les villes fantômes dont on avait parlé dans notre épisode 19. Les îles fantômes, on en a parlé plutôt dans l'épisode 38.
Dans le fond, tu nous fais un pot pourri de nos épisodes.
Exact, c'est ça. Mais pour ceux qui ne les auraient pas écoutés, les îles fantômes, c'est des îles dont l'existence a été admise et cartographiée pendant un certain temps, mais qu'on a finalement retiré soit parce que ils n'existent pas. Mm-hmm. L'île dont tu nous avais parlé, c'était l'île Sandy.
Oui.
Donc, je ne vais pas en reparler. Mais c'est pas juste l'île Sandy ou Atlantide qui auraient été des îles fantômes. Il y en a plusieurs dans l'histoire qui sont reconnues. Il y a différents exemples, comme certains cartographes qui ont cru pendant un moment que la Corée, c'était une île avant de réaliser qu'elle était attachée à l'Asie.
OK.
Comme quoi, tu peux faire des très, très grandes erreurs comme cartographe, là.
Oh, ben, surtout dans ce temps-là, là, j'ai l'impression, là, aujourd'hui, c'est...
Oui, ben là, on a la technologie et tout, là.
C'est moins facile de faire ce type d'erreur-là.
Mais il est arrivé aussi que des îles soient découvertes plusieurs fois. Donc, des explorateurs qui arrivent à plusieurs fois, donc ils donnent plusieurs noms.
Ou que des gens pensent arriver à un endroit, puis finalement, non, hein, Christophe Colomb?
Okay. Exact. On le sait que c'est possible. Il y a aussi des icebergs qui ont été identifiés comme des îles ou même des bancs de brouillard. Donc, c'est pas dans le domaine de l'irréaliste qu'un explorateur ait cru que Santorini était dans l'Atlantique et qu'il s'était trompé à force de souffrir de dysenterie, de scorbut. il était pas tout là, le
monsieur. Il s'était engagé dans Marine Marchande, qu'est-ce que tu veux?
Ah, c'est ça. Il est aussi compréhensible que des gens s'attachent à cette histoire d'île engloutie. Oui, parce que l'imaginaire autour de l'histoire est fort, mais aussi parce qu'il y a plusieurs îles répertoriées dans l'histoire qui ont été englouties elles aussi. Bon, pas aussi grosses que la Libye puis l'Asie Rémini, là, mais quand même des îles de quelques kilomètres carrés là, qui ont été englouties. On retrouve justement une liste de ces îles sur Wikipédia et ce catégorisé par type de raison derrière ces disparitions.
OK.
Fait que je vais tous vous les lister. pas en détail, là, mais on se comprend.
Ça, c'est ton côté obsédé par les chiffres. Là.
Oui, exactement. Des fois, ça revient, puis c'est comme plus fort que moi. Donc, il y en a 3 à cause d'un lac de barrage, 21 à cause de tempêtes ou de phénomènes sédimentaires, 18 par l'élévation des océans, 4 à cause de séismes, 12 à cause d'éruptions volcaniques ou d'érosion et 11 à cause d'activités humaines, principalement extraction de sable.
OK.
Que faire de cette information? Honnêtement, je sais pas.
Toutes les informations qu'on partage dans le podcast, on sait pas trop quoi en faire.
Ouais, des fois, il y en a des plus intéressantes
que
d'autres.
Des fois, on répond à des questions un petit peu plus subtiles que d'autres, mais effectivement, que faire de cette information?
Le lien que je pourrais faire, c'est que l'île de Santorini est à peu près de la largeur de ces îles-là. Fait que techniquement, ça aurait pu si c'était pas une île super montagneuse.
Ça, parce que la ville est toute en haut. Là,
c'est ça. Fait que tiré par les cheveux comme lien, vous me direz, je vous répondrai que ce n'est pas aussi pire que les sources de Platon. Et puis parfois, c'est pas nécessairement la fin qui détermine si une histoire en vaut la peine. 2400 ans après la mort de Platon, on parle toujours d'une île que personne n'a jamais retrouvée et celle-ci ne cesse de faire rêver et stimuler l'imagination. Du coup, j'espère que vous me pardonnerez cette conclusion sans réponse officielle et demeurez tout de même diverti et informé à la suite de cet épisode. Loin de moi de l'idée de me comparer à Platon, mais qui sait, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les podcasts restent.
Oh wow! T'as tout à fait raison, les podcasts restent et si jamais vous voulez écouter d'autres épisodes de notre podcast, ils sont tous disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Vous pouvez également vous abonner, c'est un gros soutien pour nous. Puis également nous suivre sur les réseaux sociaux où on publie encore plus de contenu connexe ou exclusif. On est présent sur Facebook, Instagram et TikTok,
yes.
Même YouTube aussi pour des shorts. Et sinon, on se dit à dans 2 semaines.
Bye!
Bye!